RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Louis Gerbier.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Les journalistes météo de BFM TV insultés et menacés. On s'en fout pas, Antoine Dierz.
On s'en fout pas.
Bruno Poncet.
On s'en fout pas du tout.
Et Fatima Aïd-Bounoual.
On s'y intéresse.
Eh bien, je vous explique pourquoi. On cause tout simplement les couleurs de cartes météo jugées trop foncées et donc alarmistes par des climato-sceptiques. Apparemment, quand il fait 36 degrés en mai, le climato-sceptique sort son nuancier Pantone au lieu de se demander quel était le problème. La Société des journalistes de BFM TV rappelle que le choix des couleurs se fait en fonction des normales de saison et sont fixées par Météo France et basées sur un consensus scientifique. Fatima, pourquoi on s'en fout pas quand même des journalistes menacés
parce que couleur de carte? Il y a l'absurdité totale. Déjà, ils sont pas responsables du choix des couleurs et c'est la violence. La violence, elle commence là aussi, dans la facilité qu'on a à dégainer une insulte, une menace pour des gens qui font leur travail, qui annoncent. Pour moi, c'est du même ordre qu'aller menacer. Moi, j'ai les doigts qui gonflent quand il y a de la chaleur. Ça ressemble à des petites saucisses.
Ah, les knacky balls.
Les knacky balls. Je ne vais pas aller menacer les journalistes. Pourquoi il fait chaud en ce moment? Pour moi, c'est du même ordre. Je trouve ça fou, en vrai.
Bruno.
Au-delà de ça, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que les télés, les chaînes de télé en règle générale et les médias s'interrogent aussi sur les gens qu'ils invitent. Quand tu invites des gens qui, toute la journée, te répondent, oui, mais il n'y a pas de réchauffement climatique, machin et tout.
Il n'y en a plus beaucoup qui disent ça.
Excuse-moi, des fois, moi, je vois des gens qui écrivent des bouquins, on leur donne la parole pour des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, et après, on est là. Mais même si toi, tu fais ton taf de journaliste, la personne, elle est là. Et comme les gens aujourd'hui, et on peut parler de populisme toute la journée, mais comme les gens aujourd'hui, ils en ont marre d'entendre des trucs qui leur plaisent pas, qui leur vont pas, ils préfèrent écouter quelqu'un qui dira de la merde, mais qui sera dans leur sens. Quand t'as de plus en plus de gens qui croient que la Terre est plate, je pense qu'il faut pas s'étonner, à un moment donné, que la réaction aussi, et comme aujourd'hui, on n'est pas dans un monde de nuances et que les gens sont dingues, entre les réseaux sociaux,
toi, c'est un journaliste météo parce qu'il a utilisé la couleur.
Mais on menace de mort un mec qui vient dans une émission de télé pour dire un truc que t'as pas envie d'entendre. Oui, excuse-moi, c'est là toute la journée. Si toi t'as pas été menacé de mort une fois dans la semaine, tu dois être malheureux quand même. On est d'accord.
Bah c'est ça aujourd'hui. Je ne les compte plus.
Voilà, la société française, c'est ça. Donc, mais à un moment donné, moi je pense que imaginez aussi que peut-être qu'il faudrait peut-être remettre un peu de science à la télé et des fois inviter des gens qui sont peut-être un peu plus scientifiques que le guignol de plage qui a tué un alligator avec un couteau, tu vois.
Mais non, mais pardon, mais alors il y a des dingues en liberté, menacer un journaliste, un présentateur météo, c'est absolument inadmissible, mais moi, c'est la première fois que j'entends l'explication de cette carte. Je suis normalement intelligent et moi, le premier, je me suis dit, ouais, quand même, ils nous mettent tout rouge tout le temps, c'est un peu bizarre. Et en fait, personne, jusqu'à récemment, je l'ai vu hier sur BFM TV, personne jusqu'à récemment n'expliquait largement que la coloration était liée à l'écart de température, à la moyenne de saison. Ouais, et bah là, d'un seul coup,
enfin, ça, en ça même temps, même si on te le dit pas, tu peux le comprendre en voyant les nuances de couleur.
Même moi qui suis normalement intelligent, j'avais tendance à me dire, oh, c'est bizarre, tout le rouge qu'ils mettent quand même.
On enchaîne.
Un truc.
Sûrement que cet été, la même carte serait moins rouge.
Exactement. Voilà. J'ai compris le système.
Allez, on enchaîne.
Ça, fait 50.
Si j'étais riche,
Bruno, ça fait rêver. Le nombre de moins de 30 ans ayant déposé un dossier de surendettement a bondi de 36% en un an, selon la Banque de France. Antoine, le jeune autour de la table. On s'en fout pas. Bruno.
On s'en fout pas.
Et Fatima.
Non, on s'y intéresse.
On cause la multiplication des paiements fractionnés pour des petits achats. Vous en avez sûrement tous fait un au moins une fois, non? Un petit paiement en 3 fois, un petit paiement en 4 fois, Bruno?
Jamais. En 20 fois, moi.
Oui, voilà.
En 20 fois. Je paye pendant 20 fois
c'était
sans frais.
C'était pour acheter des espadrilles.
Voilà, c'est ça. Non, c'était pour payer mon plein d'essence.
C'est ça.
Non, mais c'est une illusion de liberté financière. Et puis aussi, c'est fait assez à la va-vite avec une absence de vérification de solvabilité. Une accumulation des frais parce que t'as oublié que t'en as déjà fait un il y a 3 mois et à la fin tu es surendetté. Antoine, comment cette jeunesse peut s'en sortir?
Quand tu as présenté le sujet, je me suis dit comment on peut être surendetté à 30 ans? Enfin pardon, ça me dépasse. Et effectivement, tu expliques tous ces petits crédits qu'on voit passer aujourd'hui. Eh bien, je remercie mes parents pour l'éducation et notamment l'éducation financière qu'ils m'ont donnée. Ils m'ont toujours expliqué, on ne prend un crédit que pour une maison, à la limite une voiture, mais on ne prend un crédit que pour un gros achat. C'est un truc, c'est carré chez moi et on a toujours rejeté ces petits crédits. Et donc, Donc oui, tous ces petits crédits sont des arnaques. Et je suis désolé pour tous ceux qui sont tombés dedans, mais gardez en tête quoi, tous ces petits trucs, faut pas y aller, faut pas y aller. Voilà.
Bruno Poncet.
C'est un phénomène de société. Parce que déjà, quand tu achètes quelque chose, et même pas très cher, même une paire de pompes, on te propose un 3 à 4 fois sans frais via des applications qui ne sont là que pour ça. Donc déjà, tu commences comme ça.
Non, mais c'est tentant.
Ben oui, mais surtout, c'est que... Comme
si tu ne peux pas l'acheter sans le crédit, c'est que tu ne dois pas l'acheter.
C'est ton point de vue à toi.
Non, mais parfois, tu te dis, je peux l'acheter, mais c'est mieux de le répartir pour 3-4 mois. Tu vois,
et puis, il n'y a pas que les jeunes, mais je pense qu'à un moment donné, tu as des gens aussi qui, aujourd'hui, veulent continuer à consommer malgré une perte de pouvoir d'achat et qui trouvent cette solution-là. Moi, je suis désolé, mais malheureusement, on n'en est qu'au début. Parce que de toute façon, aujourd'hui, tu verras qu'un jour, on paiera nos courses en plusieurs fois comme ça, parce que les gens aujourd'hui avec le fruit de leur travail ne peuvent plus vivre décemment, et ça va augmenter, ces gens-là, le nombre de personnes qui vont galérer. De toute façon, l'essence, si quelqu'un un jour me prouve que l'essence va redescendre en dessous des 2 euros dans les 2 prochaines années, je peux te garantir, je suis prêt à manger mon chapeau, hein.
C'est un vrai sujet très important, et je pense qu'à l'avenir on va en parler, parce que ce soit ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens ou ceux qui ne parviennent plus à vivre décemment à partir de leur salaire, on a deux gros problèmes de société. Moi, j'ai eu un peu la même éducation qu'Antoine, donc effectivement d'un point de vue financier, oui, pas de crédit.
Je suis très frileuse,
et pour moi c'est le danger, le cercle vicieux, et effectivement ça m'a protégée d'une certaine manière. Exactement. Donc mais aujourd'hui on nous vend le crédit, on nous propose, le crédit vient aux jeunes, on leur propose, il y a des facilités. C'est plus facile d'obtenir un crédit finalement que d'être remboursé pour l'essence, j'imagine. Exactement. En termes de papier à proposer. C'est ça qui est complètement fou.
C'est des organismes, c'est en deux clics.
Ah, mais c'est ça.
On te dit, oui, c'est bon, mettez votre carte, votre adresse.
Et même pour les usurpations d'identité. Les gens qui se font usurper leur identité et après on prend des crédits à leur nom, on arrive à prendre des crédits à leur nom parce que c'est trop facile. Donc il y a ce problème-là aussi.
On finit, Louis.
Allez, on finit avec une bonne nouvelle. Les centres-villes se redynamisent, Fatima. Ça t'intéresse ?
Oui, et je trouve ça génial.
Bruno, on s'en fout,
Non, on s'en fout pas du tout.
Et Antoine Dierz.
On s'en fout pas.
65% des Français restent attachés à leur centre-ville, avec 71% des sondés qui affirment y aller au moins une fois par semaine. C'est plus qu'en 2023, donc on progresse, mais surtout, c'est le taux de vacances commerciales dans les villes moyennes et petites villes qui est passé de 14-15% à 11-12%, donc il y a une baisse. Donc voilà, on est sur un petit redémarrage.
Les commerces reviennent un petit peu.
Mais voilà, les centres-villes vont un petit peu mieux, Antoine Dierz.
Moi, je vis en plein centre-ville de Dunkerque. Je suis un fanat de centre-ville. On peut difficilement vivre plus proche. Je suis juste à côté de la place Jean Bar. Et j'adore cette vie de centre-ville où je descends chez mon boucher, je vais au hall alimentaire, je fais tous les petits commerces. Et donc, voilà. Dunkerque, t'as une ville moyenne avec un centre-ville qui vit bien. Il y a un peu de vacances, mais voilà, ça semble remonter. Il y a un seul truc, c'est je voyage un peu dans le pays, c'est l'uniformisation avec les mêmes enseignes partout. Le danger, c'est peut-être ça, quoi. J'ai plus envie de voir la même franchise partout. Je veux trouver
même quand
quand
tu voyages en Europe aussi maintenant.
Oui, pareil.
Dans toutes les villes européennes.
J'étais à Budapest, j'ai passé un week-end à Budapest. Tu trouves aussi les mêmes enseignes.
C'est samedi qu'il fallait y aller.
Et ça, c'est complètement rageant parce qu'en fait, tu ne retrouves plus d'authenticité en centre-ville, et c'est peut-être ça qui fera perdre les centres-villes à terme.
Beaucoup de quartiers se ressemblent désormais partout. Bruno.
Alors, moi, je suis passé à Vierzon là, il y a 3 semaines, le centre-ville, qui n'est déjà pas très grand.
Ah, c'est pas Los Angeles non plus, détends-toi. Là.
Ni Châteauroux.
Ni Châteauroux. Mais il n'y a pas grand-chose d'ouvert dans le centre-ville de Vierzon.
Mais malheureusement, à Vierzon, comme à beaucoup d'endroits, c'est la mairie qui a tué son centre-ville en faisant des zones commerciales autour, qui d'ailleurs ont périclité à Vierzon, entre autres. Mm. Et donc, en fait, à un moment donné, les mairies aujourd'hui qui se plaignent que le centre-ville n'est plus visité, faut qu'ils arrêtent aussi de créer des espèces de centres commerciaux aux alentours, qui aujourd'hui ferment les uns après les autres parce que les gens n'achètent plus dans les grandes. La plupart des magasins t'expliquent que nous ne sommes plus que des cabines d'essayage. Les gens regardent, ils voient la taille, et après ils commandent sur Internet parce que c'est moins cher. Moi, ce week-end, je suis dans une grande ville française qui s'appelle Toulouse. Ils ont gardé un centre-ville actif avec beaucoup d'indépendants. Je peux te garantir que c'est hyper réjouissant parce que tu te dis enfin, tu as beau aller dans ce centre-ville de Toulouse qui est exceptionnel, parce qu'en plus c'est très beau, enfin la ville rose, tout le monde sait pourquoi. Mais en fait, tu te retrouves avec des magasins, des indépendants. Donc t'as pas ces grandes firmes qui sont partout. Tu les as quelque part, hein. Comme partout, t'as une grande rue commerciale. Mais t'as ces... Donc moi, je pense que redynamiser ces centres-villes, c'est aussi arrêter de réfléchir comme tous ces cons ont fait pendant des années à écloter ça avec des zones commerciales qui ont tué leur ville. Ben moi, je suis désolé, Antoine, il parlait des commerces de bouche, mais pendant longtemps, les gens disaient le commerce de bouche, ça sert à rien que j'aille chez mon boucher, j'aille au supermarché, ça, voilà, ben non. En fait, c'est intéressant de voir des villes qui maintiennent quand même leur centre-ville.
Fatima.
Ouais, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, j'aime beaucoup les centres-villes, même Poitiers. Poitiers, c'est parce qu'on a parlé de toutes les villes. Centre-ville de Poitiers. Moi, ça me déprime parce que parfois, j'ai voulu montrer centre-ville de Poitiers en disant tu vas voir, Poitiers, c'est extraordinaire. Et j'ai montré à des amis et c'était vide à ce moment-là. Il y avait un canard en plus. Ils m'ont dit il y a un canard qui se balade. C'était vraiment déprimant.
C'était sauvé de la boucherie.
Donc, effectivement, pour s'en sortir. Non, mais c'était terrible. Ah, parce que moi, je voulais faire la promo et la réalité venait fracasser mon imaginaire. Donc, non, effectivement, tout ce qui était ringard avant, je pense que le monde d'après, si on veut survivre, il faut renouer avec l'authenticité, l'humain. Le côté unique aussi des petites
après le Covid,
boutiques.
Hein. Bah, après le Covid, tout le monde disait ça va revenir. 6 ans.
Après, ça reviendra pas tout seul.
Suite hein, des